Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
Monsieur Robitaille, Monsieur Foisy, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence avec Philippe Vincent, qui est quelque part avec son téléphone. Philippe Vincent.
Je suis à l'Assomption en ce moment pour un tournage avec mes collègues de TVA. On va faire des reportages sur les jeunes et ce qu'ils pensent de la politique. Alors, ça va être super intéressant. Okay. Les humains qui vont parler de vraies choses. Voilà.
Ah oui, tu vas parler aux jeunes? Est-ce qu'ils vont te comprendre? Es-tu encore assez jeune pour ça?
Je suis, en fait, le portail entre cette jeunesse,
c'est
le futur et notre passé que nous sommes tous
Que nous sommes, nous, de notre côté, Antoine et moi, de toute évidence. Bon, alors, de quoi tu veux parler, Philippe Vincent?
Ben, un peu comme Antoine, de ce débat des chefs hier, en fait, débat des aspirants chefs conservateurs qui était le dernier, le seul en français aussi. Puis moi, il y a comme trois choses qui m'ont marqué hier. D'abord, le changement de position de Pierre Poilievre sur la loi 21. C'est quand même le plus gros élément de ce débat-là. Là. Après avoir dit à notre micro à Cube que non, il ne contesterait pas la loi 21 sur la laïcité devant la Cour suprême, finalement, il a changé son fusil d'épaule. Puis j'ai hâte d'entendre ce que Pierre Paulus m'en passait de ça, parce qu'il disait c'est l'élément principal qui a fait en sorte qu'il appuyait Pierre Poilievre dans cette course-là. Alors, tout un changement de position. Pour Québec aussi, ça doit être une petite gorgée à avaler de travers, parce que là, tout le monde qui était sur la scène hier, donc tous les fibles chefs conservateurs vont s'opposer à la loi 21. Ils n'hésiteront pas à la contester en Cour suprême. Alors, gros changement là. Deuxième chose encore sur Pierre Poilievre, c'est à quel point il a commencé ce débat-là. Puis je me suis dit, voyons. Parce que la première question, c'est une question assez importante, assez intéressante, un peu plate, là, dans la mesure où c'est « faites-nous rêver ». Quel héritage vous aimeriez laisser si vous étiez chef et surtout si vous étiez premier ministre du pays? Et la première chose que Pierre Poilievre a dit en ouverture de débat, c'est « je veux un pays libre, libre où les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner ». Puis je me disais, mettons que tu es quelqu'un, là. T'es pas un conservateur, t'es juste un Québécois qui a écouté ce débat-là, puis tu te dis vraiment, là, monsieur, vous voulez remettre une bûche dans le poêle de la COVID, on est toute tannée d'en entendre parler, puis vous, là, vous aimez ça remettre des bûches sur cette frustration-là puis cette colère-là liée à la COVID. Je suis pas sûr que le parti est vraiment au diapason des préoccupations des citoyens moyens en ce moment. Et mon troisième point, c'est Jean Charest, qui s'en est quand même plutôt bien tiré, même s'il y a eu un beau petit jab sur la commission Charbonneau, alors qu'il me disait au micro que lui, personne ne lui parlait de la commission Charbonneau. Il a lu le rapport, la dissidence de Renaud Lachance seulement, mais pas le reste du rapport. Ouais, surtout pas ce que Mme Charbonneau a dit à son sujet.
Ouais. Antoine, c'est quand même Jean Charest qui ressort de ça comme le plus modéré du groupe, hein?
Absolument. Écoute, je pense que c'est moi l'avenir de ce parti-là. Ils veulent la politique à l'américaine.
Ouais.
Ah oui. Ça, c'était une bonne ligne quand même,
ouais.
J'avoue. Et c'était une bonne manière, tu sais, de valoriser une sorte d'identité canadienne plus raisonnable. Donc, je pense que c'était bon de la part de Jean Charest. Est-ce qu'il n'y a pas... En même temps, est-ce qu'il s'est pas mis à dos toute une partie là, du nouveau parti conservateur de l'Ouest qui se sent profondément américain au fond, ou américaine, c'est une partie. Donc, j'ai été tiraillé. C'est sûr que quand il a parlé de la bataille pour l'âme du parti, tu sais, quand tu dis que c'est Jean Charest qui se bat pour l'âme d'un parti, je sais pas. Tu sais, je veux dire... Quand il était ici, à Québec, il était profondément libéral. Quand il était chef du Parti libéral, il se disait fier libéral. Puis ça avait un sens, là. C'est Mario Dumont, c'était l'antéchrist, parce qu'il se présentait un peu plus conservateur, alors que là, il va beaucoup plus loin vers la droite que ce que Mario Dumont faisait. Donc, ça, je trouve que c'est un peu, comment dire, de la part de Charest. Oui, tu sais, les gens ont dit, il y a du contenu, tout ça, c'est sûr, là. Il se positionne bien.
Il refait l'histoire en désespoir.
Et c'est ça, il se retrouve à se renier. Hein? En tout cas, pour le reste, ben, c'est des gens qui se sont essuyés les pieds sur le Québec. Je pense la loi 96, la loi 21, j'en suis pas revenu. Là. Écoute, Patrick Brown a dit c'est pas correct. Scott Aitchison, c'est pas la bonne approche. Roman Baber,
t'as compris ça, toi?
Inacceptable. Oui, j'ai compris.
Avais-tu un décodeur au bas de l'écran?
Oui, c'est ça. Il y avait de la traduction. T'as pas vu? Je l'écoutais en anglais. Moi, c'était plus simple.
Ah oui, parce que tu comprenais.
Bon. Oui, t'avais de la traduction simultanée. Puis de toute façon, les phrases étaient conçues en anglais, donc c'était facile. Après ça, de répercuter ça dans la langue de Shakespeare. Mmh. Alors, j'ai bien ri quand Pierre Poilievre a parlé des gens qui vivent dans le sous-sol de leurs parents. Là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, il doit y avoir pas mal de ces militants là, qui vivent dans le sous-sol en train de triper sur des sites Internet bizarres. Mmh. En tout cas, heureusement que le ridicule ne tue pas parce qu'il y aurait eu des morts hier.
Ben, Philippe-Vincent?
J'ai dit, ils vont rester dans le sol de leurs parents pendant un bout de temps parce que leurs bitcoins ont perdu pas mal de valeur.
Ils ont tout perdu. Merci, non, M. Poilievre.
Où est-ce que ce parti-là s'en va exactement? Tu regardais ça hier, là, ça avait pas de bon sens. Là. En tout cas.
Et le plus drôle, quand ils parlent de bilinguisme, là, puis ils sont pas foutus d'avoir deux phrases de suite en français. Puis
après ça, ils donnent un coup sur la loi 96. C'est comme des gens qui, je sais pas, c'est comme un panel de gars qui parlent d'avortement.
À peu près. C'est à peu près ça.
Non, mais puis le fait aussi qu'on parle de bilinguisme, ce qui est fascinant, c'est que pour certains comme Mme Louise, c'était vraiment juste s'il y avait du français au Québec. Elle dit oui, les Québécois en français, mais il y a des francophones dans le reste du pays qui vont devoir être représentés par ce peuple-là. C'est comme si on écartait totalement cette existence-là de ce peuple-là et de ces gens-là.
Ah ouais, écoute, c'est gênant, c'est vraiment gênant. Faites un débat avec des gens qui savent parler la langue, là. Tu sais, le reste, là,
c'est moins gênant, mais sincèrement, c'est moins gênant que le dernier. Parce que le dernier débat, c'était Peter McKay, c'était Erin O'Toole, Derek Sloan et Leslie Lewis qui commençaient à peine à balbutier le français. C'était vraiment, vraiment plus gênant. Donc, si je compare à ce que j'ai déjà vu dans les dernières courses confirmatrices, c'était quand même l'un des bons débats en France.
Mais Aitchison puis Baber...
Hey, as-tu entendu ce que Philippe Vincent vient de dire? C'était quand même un des bons débats en français.
Ah ouais.
C'est un des bons débats en français. Ouf!
Entre Charest puis Poilievre, parce que le reste...
Non, mais je te dis, de façon générale, je sais que vous capotez, là, mais de façon générale, depuis les trois dernières courses, c'était quand même l'un des bons débats.
Oui,
parce que les autres étaient pires. Mais tu sais, moi, je finis ce débat-là en me disant quand même que les trois principaux candidats, Pierre Poilievre, Jean Charest et Patrick Brown, se sont accusés de menteurs, de dire des faussetés, de ne pas être informés toute
la soirée.
Mm-hmm. C'est de l'or en bord pour ces adversaires.
Vraiment. Les libéraux ont dû prendre tellement de notes.
OK, un mot sur et aussi les questions qui étaient pas comprises là, parce que le thème c'est l'immigration, mais là il pose une question sur le chemin Roxham, puis on répond complètement à côté de la question.
Puis Poilievre, Patrick Brown qui s'engueule sur des détails de je sais pas d'actualité, ils se reprochaient des affaires, on comprenait pas, ils parlaient l'un par-dessus l'autre avec du français approximatif, du traduit du, hein?
C'est ça. Ouais,
c'est Gaston Miron qui avait inventé cette expression-là, du traduit du.
Okay. Il n'y a quand même pas eu non plus de questions sur les gros dossiers qui ont plombé les deux dernières courses. Il n'y a pas eu de questions sur les armes à feu, alors que c'est ce qui a vraiment fait mal à Erin O'Toole. Puis l'avortement, on a à peine glissé un mot parce que Jean Charest a finalement réussi à sortir les mots pro-choix de la bouche de Pierre Poilievre. Mais sinon, les deux gros thèmes qui sont comme du plomb dans les ailes des candidats conservateurs, n'importe quoi.
Oh, un pet de bouche ici. Immigration temporaire.
Oui, ça semble être une faille, l'immigration temporaire. Et deux experts se sont penchés là-dessus. C'est Geneviève Lajoie qui nous apprend ça dans le journal ce matin. Puis je trouve que c'est un dossier très important, d'autant plus que le premier ministre a vraiment dit hier qu'il voulait faire campagne sur la question de l'immigration puis du rapatriement des pouvoirs. L'immigration temporaire, donc, elle est gérée par qui? Par Ottawa. Et ça échappe donc au pouvoir de Québec. Et ça, les nombres sont en explosion, carrément. Tu vois, les nouveaux immigrants temporaires au Québec, c'est passé de zéro en 2015 à 62 000 en 2019. T'imagines? Mmh. Tu sais, le gouvernement du Québec, c'est-à-dire la CAQ, nous disait qu'il faut en prendre 40 000. Ça, 40 000, c'est en prendre moins pour en prendre soin. D'ailleurs, dans les rapports de Termotte et de Fortin, on dit qu'il faudrait hausser la barre à 58 000. Puis tout à l'heure, dans le couloir, le ministre de l'Immigration a dit que ouais, on y pense. Donc, il y a une évolution à la CAQ là-dessus. Puis je vais dire pourquoi après. On va écouter Jean Boulet.
Ce que M. Termotte soumet m'apparaît une approche qui est respectueuse de notre volonté d'assurer la vitalité du...
Donc, ça vous apparaît convenable et réaliste, 58 000 sans...
Mais moi, je prends bonne note. Évidemment, j'ai obtenu ces deux rapports-là de M. Termotte et de M. Fortin pour alimenter nos réflexions. Mmh. Et je pense que l'argumentaire de M. Termotte est raisonnable.
Donc, il faut, pour freiner le déclin du français, il faut accueillir des immigrants le plus francophone possible. Ça, c'est une évolution aussi de la part de la CAQ. T'sais, on se souvient, eux autres, ils disaient faut arrimer au marché du travail, puis on les francisera après. Ben là, ça a vraiment changé là, leur position là-dessus. Et les deux experts disent le fameux programme d'expérience québécoise devrait être réservé à des personnes étudiant en français. Donc, je trouve qu'il y a de l'évolution dans le dossier de l'immigration, je voulais le souligner.
Bon, Philippe Vincent, je pense qu'on te laisse aller, toi, là. T'es attendu.
Oui, je suis attendu. Et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Il y a des tournages, tu sais.
Parfait. J'espère que t'es maquillé et t'es café.
Pour que
fais-toi joli, hein?
J'aime tellement ça quand Benoît nous sort son qualificatif. Café.
OK. Salut, Philippe Vincent.
Face de radio.
Salut, PVF.
Oui, c'est ça. La radio, je vous le rappelle, c'est la télé des moches, hein. Faut savoir. un mot.
Et des non-peignés, des non-cafés.
Des cafés. Oui, c'est ça. Un mot, Antoine, on a le temps sur l'aide médicale à mourir.
Ben, Christian Dubé, ministre de la Santé, a déposé un projet de loi hier. Ça a surpris les oppositions parce qu'il n'avait pas été mis vraiment au courant. Et un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, c'est pas rien, l'aide médicale à mourir. Là. C'est un dossier extrêmement important. Puis, l'aide médicale à mourir aurait été, dans le projet de loi, disponible pour les citoyens atteints d'un handicap neuromoteur grave et incurable.
Ouais.
Or, ça faisait pas partie du consensus que auquel les oppositions en sont venues. Les parlementaires, en fait, en sont venus. Christian Dubé a répondu ce matin, si c'était le Collège des médecins du Québec qui voulait ça, c'est pour ça qu'on a ajouté ça. Et écoute, ça avait vraiment fait soulever un tollé. Les oppositions avaient dit on n'appuiera pas ce projet de loi-là. Et donc, Christian Dubé, assez flexible, a retiré ça ce matin. Il dit un jour, on évoluera peut-être vers cet ajout-là de gens avec un handicap neuromoteur grave et incurable qui pourraient demander l'aide médicale à mourir, mais on n'est peut-être pas rendu là. Puis il veut absolument que ça soit adopté avant la fin de la session parlementaire. Mais je vais te dire, Christian Dubé, ça fait plusieurs fois là, qu'il dépose des projets de loi, puis il est obligé tout de suite de les modifier. Je pense au projet de loi aussi de sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Bon, ben très bien.
Il faudrait qu'il travaille un petit peu plus en amont.
OK. On continue ça, puis on règle ça demain vendredi. Antoine Robitaille, merci. À demain.
Au revoir.